Sébastien Lévesque, comment vas-tu?
Ça va très bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien et j'en profite pour vous annoncer que notre très attendue saison 8, ayant pour thème les Rabbit Holes, débutera le 4 octobre prochain sur toutes les plateformes.
Mais si vous êtes un membre Patreon, où que vous soyez dans le monde, elle débutera en avance, soit le 27 septembre. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement à abonnement mensuel qui vous donne accès à du contenu exclusif de Distorsion et à tous nos épisodes en avance, le tout sans publicité. On vous offre deux forfaits exclusifs pour nous supporter.
À 3 $ canadiens par mois, vous avez accès au forfait Distordu, qui vous offre un shout-out dans un épisode, l'accès au serveur Discord VIP, accès aux épisodes réguliers en avance, accès aux épisodes bonus en avance, 10 % de rabais sur la boutique, et ce, à chaque mois.
On a aussi le forfait Oui, monsieur! À 8 $ canadiens par mois, vous obtenez tout ce qui est inclus dans le forfait Distordu. Vous avez en plus accès à du contenu exclusif qui est dédié à ce forfait, comme un after-show après chaque épisode, des interviews, des discussions off the record, etc. Vous avez aussi également accès à un épisode secret par saison, sans parler que vous avez accès aux épisodes secrets des saisons précédentes. Également, vous avez 20 % de rabais sur la boutique à chaque mois.
Rendez-vous au patreon.com/distorsion pour vous abonner et devenir des commanditaires officiels de Distorsion.
On vous remercie énormément de votre soutien et bonne écoute.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
But I, sitting my desk, certainly had the authorities to wiretap anyone, from you or your accountant to a federal judge to even the president if I had a personal email.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Les attentats du 11 septembre ont eu des impacts sur notre façon de vivre et de voyager, mais aussi sur notre droit à la vie privée.
Quand Edward Snowden a dévoilé les secrets du gouvernement américain en 2013, une véritable chasse à l'homme s'est enclenchée.
Il devient alors l'homme le plus recherché par les États-Unis depuis Osama Ben Laden.
Comment Edward Snowden est-il devenu à la fois un traître pour le gouvernement américain et une icône de la culture populaire? Suivez-nous dans ce voyage aux frontières du réel et de la paranoïa.
Bonsoir Émile Gauthier, comment ça va?
Ça va très bien Sébastien Lévesque, oui. Parce qu'on aborde un sujet que ça fait longtemps qu'on voulait aborder, oui. Edward Snowden et les secrets de la NSA. On le sait, c'est des sujets aussi qui nous sont souvent demandés, oui. Via la communauté, d'aborder un peu plus le sujet des secrets gouvernementaux. Mm-hmm. On aime tout ça un peu se plonger là-dedans parce que parfois, ça, on tombe dans la conspiration, dans la paranoïa, dans le réel. Et parfois, en fait, ça ressemble à des films d'espionnage, mais c'est la vraie vie, au fait.
Oui, c'est ce qui me surprend le plus de toute cette histoire-là, c'est qu'on on aurait vu un film avec ça, puis on se serait dit « Ah, c'est bon en film, mais jamais, mm-hmm. jamais j'aurais cru que ça aurait pu aller aussi loin dans l'espionnage. » Même moi, quand ces révélations-là ont sorti il y a quelques années... J'en doutais quasiment, oui. de l'existence de ça. Pour moi, c'était quasiment impossible de tout surveiller dans les données. Donc, vous allez avoir un peu plus de détails durant l'épisode, mais c'est vraiment quelque chose qui m'avait, moi aussi, chamboulé. Je doutais vraiment de la véracité de tout ça.
Ben oui. Puis c'est un sujet qui est encore d'actualité, évidemment, parce que la surveillance puis la vie privée, c'est au cœur des discussions en ce moment. On en parle souvent entre nous, là, à savoir si Facebook ou Google, oui. nous espionne. Et puis, c'est un peu l'angle aussi qu'on veut aborder dans l'histoire de ce soir. Donc, on va pas nécessairement vous raconter toute la vie de Edward Snowden. Évidemment, on va y revenir. Mais on va revenir surtout sur les révélations qu'il a faites en 2013 dans cette fameuse chambre d'hôtel de Hong Kong, oui. où vraiment il se sentait traqué de partout, et c'était le cas aussi. Puis on va revenir sur les après aussi, sur le legs qu'il a laissé, oui. puis il en est où maintenant, Edward Snowden, en fait? Donc, ça risque d'être fort, fort intéressant. On va détailler aussi un peu les programmes de surveillance gouvernementaux, pardon, dont il a fait état dans ses révélations. Ouais. On va aller un petit peu plus creux que ce qu'on a vu parfois dans les médias plus traditionnels. Là, nous, on avait bien hâte de vous présenter ce sujet-là ce soir. On a fait des tonnes de recherches, puis ça risque d'être intéressant. Mais tout d'abord, Seb, qu'est-ce qu'on boit là, pour passer au travers tout ça?
Oui, on boit une merveille, sincèrement. C'est la houblon brute de la microbrasserie Le Castor. C'est une brute IPA qui est un style originaire de San Francisco. Honnêtement, moi, je connaissais pas ça, ce style d'IPA-là. La brute IPA, c'est excellent. C'est une bière sur lit qui est organique, très sèche et désaltérante.
Oui.
Il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc, faites vraiment vite. Appelez à votre boutique de bière préférée pour vous informer s'il y en a en stock.
Puis cette bière-là, elle nous est offerte par David via la tournée de bière au distorsionpodcast.com. Donc, si vous vous rendez sur notre site web et vous cliquez sur l'onglet tournée de bière, vous pouvez nous offrir une bière, en fait. Faire un don à Distorsion et encourager le show. C'est toujours très apprécié. Donc, merci à toi, David. Et évidemment que cette bière-là nous vient du Biérologue, qui est vraiment la meilleure boutique de bière au monde, là, qui est située à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, tout près du marché Maisonneuve.
Oui.
C'est là qu'on prend nos bières. Là. On aime bien ce commerce de quartier.
On a aussi un review 5 étoiles sur Apple Podcasts qui nous vient de Mile Shadow, qui nous dit « En plus d'essayer de nous attirer dans le monde ténébreux de la bière artisanale, ce podcast est de loin le meilleur et de tout ce qui peut être fait en français. »
Voilà, on s'en rit un peu, là.
Ouais, quand même. Hein. « Bravo les boys, le son est impeccable. Merci à toi, Mile Shadow. »
Oui, un petit point aussi, Seb, à savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochaines semaines pour nous, parce que notre centième, pas tout de suite, notre cinquantième épisode s'en vient. Et là, on est déjà au septième, donc on est déjà dépassé mi-saison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une petite semaine de relâche, comme on fait généralement dans une saison à mi-saison. On prend une petite semaine de relâche et on revient par la suite le 13 décembre avec un événement spécial pour notre cinquantième. Donc, on va faire un Facebook Live et un live sur YouTube. Donc, un live stream en direct sur YouTube, sur Facebook. On va créer un événement là, que vous allez pouvoir rejoindre sur Facebook avec tous les détails, tous les liens. Et puis, pendant ce stream-là, en fait, on va discuter avec vous. On va faire un peu un retour sur nos épisodes récents. On va faire un peu comme un épisode bilan, si on veut. On va revenir sur certains points, certaines mises à jour de dossiers qu'on a couverts. On va prendre vos questions aussi.
Oui.
Et puis, ça risque d'être bien intéressant. Donc, en fait, vous allez être 2 semaines sans épisode régulier de Distorsion. Via le podcast. Donc, on essaie des nouvelles choses.
Oui.
Et puis là, l'épisode, en fait, la saison 4 va reprendre son train tout de suite par la suite.
Oui, oui, oui.
On va prendre une pause pendant Noël,
bien
mais
sûr.
On va revenir. Vous comprenez qu'on a un peu délayé tout ça, donc on doit s'adapter. On sort un livre bientôt aussi, donc il a fallu qu'on ajuste la saison un petit peu avec ça. Mais on va revenir en 2019 pour poursuivre la saison 4 pour 12 épisodes avec quelques bonus qu'on vous réserve.
Bien sûr.
Sinon, Sébastien, est-ce qu'on est prêt à se plonger au cœur des secrets d'Edward Snowden et de la NSA?
Oui, monsieur.
Oui, monsieur.
C'est parti.
C'est parti. Yeah.
Nous sommes le 11 septembre 2001 au matin. 19 terroristes du réseau djihadiste Al-Qaïda embarquent dans 4 vols domestiques, des vols internes, à partir de Boston, de Washington et de Newark. L'objectif est d'utiliser les avions comme projectiles géants. Le premier appareil, un Boeing 767 d'American Airlines, avec 92 personnes à bord et 5 terroristes, s'écrase sur la tour nord du World Trade Center à 8h46. À 9h03, un autre Boeing 767 de United Airlines, à lui avec 65 passagers et 5 terroristes, frappe la deuxième tour jumelle. À 9h43, un Boeing 757 d'American Airlines, lui avec 64 personnes à bord et 5 terroristes, s'écrase à Washington, sur le ministère de la Défense, le Pentagone. À 10h06, le quatrième avion, un autre Boeing 757 de United Airlines, lui avec 44 personnes et 4 terroristes à bord, vole en direction de Washington. Par contre, il ne se rend pas à sa destination et s'écrase en campagne à Shanksville, en Pennsylvanie, après que des passagers et des membres de l'équipage qui ont été prévenus par téléphone de ce qui se passait ailleurs ont essayé de reprendre le contrôle de l'avion. Bien sûr, sans succès, mais ils ont quand même évité un autre plus gros drame. Là, parce qu'ils ne savaient pas exactement, les autorités n'ont jamais su exactement le plan exact de cet avion-là. Mais étant donné qu'il était à 20 minutes de Washington, il suspectait quand même soit la Maison-Blanche ou le Capitole là, qui était une cible ouais. de ces terroristes-là. Les deux tours du World Trade Center s'effondrent moins de 2 heures plus tard, provoquant l'anéantissement de 2 autres immeubles autour. Les attentats du 11 septembre 2001 sont les attentats les plus meurtriers jamais perpétrés depuis le début de l'histoire. 6291 personnes sont blessées lors de ces attaques qui ont causé la mort de 2979 personnes qui appartenaient à 93 pays. Et dans tous ces morts-là, 2750 personnes étaient à New York. Assez fou, hein? La plupart étaient dans les tours du World Trade ou des pompiers, des policiers, des choses comme ça. Là. C'est abominable, hein?
Ah oui, je me rappellerai toujours de cette journée-là. Puis on voit maintenant, plusieurs années plus tard, que en fait, même si New York semble s'être remis, New York et l'Amérique, je devrais dire, ouais. et que évidemment il y a un magnifique immeuble qui a été construit, oui. un endroit vraiment qui rend hommage aux victimes. On sent que c'est encore un sujet très sensible, que bien c'est sûr. Encore très, c'est pas si loin de nous dans la mémoire collective.
Non, t'as bien raison. Puis tout le monde se souvient le matin. Quand c'est arrivé, ce qu'il faisait.
Oui, oui,
à
oui.
À peu près tout le monde, là. Ça l'a tellement marqué. Et justement, c'est le deuxième avion. C'était live à la télé. Des millions de personnes sur la planète ont vu le deuxième avion rentrer live.
Ah oui.
Ça a été un des événements en direct les plus marquants de l'histoire. Les autorités américaines, n'ayant aucunement prédit ces attentats, sont sous le choc. La journée même, le président Bush et Dick Cheney, on se rappelle, on est en 2001.
Oui.
ordonne la mise en place par la NSA, qui est l'Agence de sécurité nationale américaine, d'un programme de surveillance pour éviter que cela se reproduise un jour. Il faut se rappeler que l'objectif, la mission de la NSA, c'est entre autres de dépister justement les attaques et les complots terroristes contre les Américains. Selon ses dires, la NSA, elle avait trop les mains liées justement pour travailler efficacement, et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas été en mesure de prévenir les attaques du 11 septembre. Il faut se rappeler que sous l'administration Nixon, on remonte beaucoup plus loin, là, c'était de 1969 à 1974, la NSA s'était mise à espionner les Américains, ce qui était illégal sans mandat. Le Congrès américain avait alors ordonné que l'on cesse cette pratique, ce qu'ils ont fait pendant plus de 20-25 ans, en fait. Là.
Oui, quand même.
La NSA ont quand même respecté ce droit-là.
Le 12 septembre, le lendemain des attentats, plusieurs employés de la NSA situés au quartier général à Fort George G. Meade dans l'État américain du Maryland se rencontrent pour mettre en branle ce qu'ils appellent le programme. Il ne faut pas oublier que la veille, des milliers d'Américains sont morts et la NSA n'avait pas prédit ou n'a pas été en mesure d'empêcher ce tragique événement, pardon. Tous se sentent coupables, donc l'ambiance est très lourde lors de cette première rencontre. Ils devaient trouver des solutions pour maximiser la surveillance pour éviter un autre drame du genre. La première idée était de collecter les données de communication Internet de l'étranger qui transitait par les États-Unis. Les géants du Web, même à cette époque, sont pour beaucoup des entreprises américaines, donc une grosse partie du trafic Internet mondial passe par les États-Unis. Cependant, ce n'était pas assez pour certains. Ils ont alors proposé de collecter pas seulement les données d'Internet, mais plutôt toute forme de communication numérique. Et là, on parle d'appels téléphoniques, par exemple, de messages textes, de conversations Skype, etc. Et pas seulement les données qui sortaient du pays, mais bien celles de tous les Américains, et ce, sans mandat. Cette solution ambitieuse avait déjà un précédent dans l'organisation. Dans le plus grand secret, la NSA avait développé bien avant le 11 septembre un logiciel qui collectait et classifiait les communications numériques globales. Le système, qu'on appelait Thin Thread, créé par Bill Bainey, un crypto-informaticien, permettait d'écouter de façon anonyme toutes les communications interceptées. Cependant, dès qu'une communication provenait d'un Américain, celle-ci était encryptée et même les analystes travaillant sur le système ne pouvaient y avoir accès. Ce qui, en même temps, ben, protégeait la vie privée des Américains, mais pas de tous les citoyens du monde. Donc, il y a quand même des problèmes éthiques là-dedans.
Ben, absolument.
Là. Mais cette fois-ci, le logiciel n'allait pas encrypter les données des Américains. La NSA présente les grandes lignes de ce programme au président Bush, George W., évidemment, à l'époque. Celui-ci est en accord avec le programme et consulte le département légal, ce qui ne me surprend pas du tout de M. Bush. Le 4 octobre, 3 semaines après les attentats, le président Bush et Dick Cheney, son numéro 2, signent et autorisent alors officiellement la NSA d'aller de l'avant. Étant très controversé, l'existence de ce programme était extrêmement confidentielle et un minimum de personnes à l'intérieur du gouvernement étaient au courant. Même à la NSA, très peu d'employés connaissaient l'existence de ce système de surveillance. Cependant, au fil des semaines, l'information commence à circuler à l'interne et plusieurs personnes remarquent l'arrivée de nouveaux serveurs et de différents types d'équipements qu'ils sont habitués d'installer à l'étranger pour faire de l'écoute. Ah oui, parce que la NSA, on le sait, a investi énormément dans les serveurs et dans les systèmes de stockage de données là, au cours des dernières années. On va y arriver un petit peu plus tard. Plusieurs membres de la NSA ne sont pas en accord avec ce qu'ils font. Ils font des pressions à la Chambre des congrès, mais sans succès. Il y en a plusieurs là, que autour de la machine à café le matin commencent à se dire où est-ce qu'on s'en va avec ces systèmes de surveillance-là qui sont dignes de James Bond, là. Et parfois même plus de Dr. Evil.
Oui, exact.
À l'été 2002, le programme, ce qu'on appelle le programme, roule à plein régime.
Donc, ça leur a pas pris beaucoup de temps, hein? À peine six mois. C'est sûr qu'il y avait déjà une grosse base de développer, là, mais quand même, d'implanter tout ça, ça a été quand même assez rapide. Là. D'après moi, il y a eu énormément de ressources de mis là-dessus.
Et surtout de prendre la décision. On voit que le 11 septembre extrêmement... accélérer les choses, parce que des programmes comme ça, c'était dans l'air depuis, comme tu le dis, l'ère Nixon.
Oui, exactement. Et, mais là, ça permettait d'instrumentaliser là, ou vraiment là, de permettre ça sans se poser de questions. Là.
Ah
parce
oui.
que j'écoutais justement des reportages d'anciens de la NSA, puis il y en a beaucoup qui étaient en accord. Même tout tantôt, on parlait du département légal. Il y avait le département légal américain, mais le département légal de la NSA a aussi approuvé le
Bien
tout.
Sûr.
Et ils étaient d'accord avec ça, parce que pour eux, il n'y a rien qui vaut la sécurité des Américains. Ça, là-dessus, c'est vrai que l'objectif, en tant que tel, on peut le comprendre. C'est juste que les moyens pour y arriver sont quand même inquiétants.
Puis on va y revenir sur tout l'aspect juridique. Tout à l'heure, vous allez voir, on va décortiquer tout ça.
Le 1er décembre 2012, Glenn Greenwald, journaliste et blogueur très connu qui travaille pour le Guardian, est actuellement chez lui à Rio de Janeiro, au Brésil, lorsqu'il reçoit un courriel de la part d'un mystérieux expéditeur du nom de Verax, qu'il ne connaît pas et qui lui écrit « J'ai en ma possession certaines choses qui pourraient vous intéresser. » Il signe Verax, that's it. Cette même personne ajoute cependant que pour discuter avec elle, le journaliste doit installer un système de cryptage de ses communications pour éviter de se faire écouter. Ce courriel, qui est signé d'un pseudonyme bien évidemment, n'accroche pas trop l'attention de Glenn. Il ne donne pas suite pour lui. Il comprend pas comment quelqu'un lui dit qu'il veut... out of nowhere, quelqu'un t'a dit que t'as quelque chose d'intéressant, mais que tu dois... sans plus, et que tu dois crypter tes communications pour parler. C'est vrai que moi aussi, tu sais, ça peut être un canular.
Bien sûr.
À la limite, je peux le comprendre d'avoir ignoré la chose. Ce mystérieux Verax, qui signifie 10 heures de vérité en latin, n'abandonne pas son désir de révéler quelque chose qui semble important. En janvier 2013, il tente alors de communiquer, toujours par courriel anonyme, avec la journaliste et réalisatrice américaine Laura Poitras, qui était à Berlin, en Allemagne, à ce moment-là. Contrairement à son homologue Glenn, elle est un petit peu plus curieuse par rapport à ce mystérieux inconnu et décide d'en savoir plus sur ce qu'il a à dire. Il échange alors plusieurs courriels cryptés, elle écoutait ses consignes. Par contre, il mentionne que cette information peut mettre sa liberté et possiblement même sa vie en danger.
Je vais revenir un petit peu, Seb, sur qui est Laura Poitras.
Oui.
En fait, Laura est une réalisatrice originaire de Boston, au Massachusetts, qui vit maintenant à New York, aux États-Unis. Elle est âgée de 54 ans et toute sa carrière a été marquée par des films à forte teneur politique, souvent en lien avec la sécurité et la protection de l'information. Au moment des faits, là, on la connaît pour la réalisation du film My Country, My Country, un film qui détaille l'occupation américaine en Irak. Le film a gagné plusieurs prix prestigieux et a même été nominé pour un Oscar en 2007. En 2010, elle réalise le film The Oath sur deux citoyens du Yémen qui sont pris dans la guerre contre le terrorisme des États-Unis. Le film se distingue entre autres au Sundance Film Festival en raison des films très engagés et des relations qu'elle a entretenues avec des citoyens de par le monde et notamment en Irak pour la réalisation de ses films. Laura est constamment sous surveillance du gouvernement américain, donc elle connaît bien ce dont Verax lui parle. Elle estime être dans le tiers le plus élevé des gens surveillés aux États-Unis et à chaque fois qu'elle passe aux douanes, c'est un cauchemar et elle subit des interrogatoires constamment. Elle va d'ailleurs remplir une requête de droit à l'information pour connaître la véritable raison pour laquelle elle est surveillée, car après tout, elle n'est qu'une réalisatrice en fait.
C'est vrai.
Et il semblerait que les États-Unis la soupçonnent d'avoir été au courant d'une embuscade des troupes américaines survenues en Irak en 2004, chose que Laura va toujours dénier. Pour sa forte implication activiste auprès de la communauté, il est normal qu'elle fût une des premières contactées là, pour cette opération mystérieuse orchestrée par Verax. Quelques semaines plus tard, je reviens à notre histoire, à New York, Laura rencontre Barton Gellman, qui est journaliste au Washington Post, spécialisé en sécurité nationale. Elle voulait avoir l'opinion de quelqu'un d'autre par rapport à ce que prétend la mystérieuse personne avec laquelle elle a échangé des messages cryptés. Vers la fin mai 2013, Verax envoie une invitation particulière dans le même courriel à Laura et à Barton. Le court message était « Rendez-vous à Hong Kong ». Quand même... assez direct.
Oui.
Laura était partante, mais Barton ne voulait pas y aller. Il voyait en fait un trop grand risque d'aller rencontrer ce mystérieux Verax en Chine. Cependant, Laura trouva un autre acolyte et elle proposa de faire le voyage avec Glenn Greenwald, le premier à avoir reçu une communication de la part de Verax.
C'est un hasard, hein, ça en fait, c'est ça qui est étonnant. C'est qu'elle ne savait pas nécessairement à la base que lui avait été contacté par Verax.
Donc, on sent que Verax a contacté des gens un peu d'un même cercle.
Oui, des bonnes personnes.
Elle le rencontra en personne au préalable pour lui montrer ses échanges courriels avec Verax, qui prétendait travailler pour la NSA et avoir des informations névralgiques et très compromettantes pour l'organisation à leur révéler. Glenn Greenwald accepte d'accompagner Laura. Il amène avec lui un collègue du Guardian, Ewan McCaskill, et celui-ci est très sceptique par rapport à tout ça et trouve le tout très nébuleux, je les comprends. Le 2 juin toujours de l'année 2013, ils prennent finalement l'avion en direction de Hong Kong pour rencontrer Verax en personne. Et tiens, quelques petits mots peut-être sur la NSA. La NSA, on l'a expliqué un peu en quoi ça consiste, mais quelques petits mots supplémentaires ici, là, sur sa création notamment. Elle a été créée tout de suite après l'attaque surprise là, à Pearl Harbor par les Japonais après la Deuxième Guerre mondiale. Je savais pas que ça remontait à si loin.
Non,
en
moi
fait.
Non plus.
Et son rôle est avant tout de protéger la sécurité intérieure du territoire des États-Unis. Et ils sont connus, entre autres, pour mettre en place des tactiques d'espionnage avancées puis des systèmes d'analyse de données et de big data, entre autres.
On revient à notre histoire. Dans l'avion, une fois à l'abri des regards, Laura sort de sa poche une clé USB. Elle avait reçu dans les semaines précédentes plusieurs documents d'archives compromettants. En fait, la clé USB contenait des milliers de documents top secrets provenant de la NSA sur plusieurs activités de surveillance de l'agence durant les dernières années. C'est à ce moment que les deux acolytes du Guardian ont compris l'importance de ce qu'ils avaient entre les mains. Rendus à Hong Kong, ils se rendent à l'hôtel de Myra, qui est un des hôtels les plus chics de Hong Kong qui est situé au nord de la ville. Les trois journalistes n'ont toujours aucune idée à qui ils ont affaire et à quoi ressemble Verax. Le seul indice qu'ils ont pour le reconnaître est qu'il aura dans ses mains un cube Rubik. Mm-hmm. Vous savez, là, le fameux cube de couleur, là, un peu en trois dimensions qu'il faut reconstruire et bouger, pivoter, là. Dès leur arrivée, un jeune homme blanc, maigrichon, vêtu de noir, vient les rejoindre. Bien sûr, il y avait un cube Rubik dans ses mains. Ils ont tous été un peu surpris de avec qui ils avaient affaire. Ils montent dans la chambre alors de Verax, étant donné qu'ils l'avaient bien reconnu. Une fois à l'intérieur, celui-ci camoufle sa porte avec des oreillers pour que éviter que le son ne circule trop si quelqu'un écoutait sur le bord de la porte. Mm-hmm. Donc, il prenait toutes les précautions. C'est durant plusieurs jours qu'il restera enfermé à l'abri des regards avec les trois journalistes et qu'il révélera les détails du programme de surveillance de la NSA. L'homme révélera alors que son nom réel, Edward Snowden, qui est un employé de la NSA en fuite.
Eh oui, finalement révélé une fois là-bas, mais avant, ces gens-là n'avaient aucune idée de qui était Edward Snowden.
Non, pas du tout. Il était zéro connu à cette époque-là.
Exactement. Je vais vous faire un petit topo sur ce fameux Edward Snowden qui a été par la suite un personnage très important de l'actualité numérique. Né le 21 juin 1983, Edward Joseph Snowden, il est né à Elizabeth City en Caroline du Nord. Il y passe une partie de sa jeunesse avant de partir vivre dans le Maryland avec ses parents Elizabeth et Lonnie, un officier des gardes-côtes. En 1998, il décide d'abandonner l'école. Il est alors en deuxième année du secondaire. L'année suivante, il commence à s'intéresser très intensément à l'informatique. Il est engagé par la CIA en 2006 comme expert des technologies, là, des IT, et reçoit une « top secret clearance ». C'est quoi ça, Seb? C'est un
accès à l'information, oui. Mais vraiment là, de plus de haut niveau.
Oui,
là,
OK, donc. OK. De 2007 à 2009, Snowden est muté à Genève, en Suisse, sous couverture diplomatique en tant qu'expert en informatique et en cybersécurité pour la CIA, un poste qui lui donne accès à un large éventail de documents classifiés. Au cours de cette période, il va affirmer « J'ai été déçu du fonctionnement de mon gouvernement et de son impact sur le monde. J'ai réalisé que je faisais partie de quelque chose qui faisait beaucoup plus de mal que de bien. »
Juste pour dire, c'est ça, c'est que dans le fond, ça, c'est à partir de 2006 qu'il a travaillé, comme tu dis, à la CIA, mais vraiment, de 2007 à 2009, parce qu'au début, il était plus un technicien, là, mais il était pas il était pas impliqué au niveau de la cybersécurité. Puis c'est justement, dès le départ, il s'est vraiment rendu compte qu'il y a quelque chose qui allait beaucoup trop loin, là. Donc, c'est quelque chose qui l'habitait depuis quasiment le début,
oui.
Qui travaille pour la CIA.
Puis il n'était pas le seul à la CIA, même,
non,
à trouver que ces programmes-là de surveillance allaient un peu trop loin. Là. De fin 2009 à mars 2012, le superviseur de Snowden à la CIA a remarqué que ses comportements au travail sont étranges depuis quelque temps et il suspecte qu'il tente d'accéder à des fichiers informatiques classifiés auxquels il ne serait pas autorisé à accéder. Snowden quitte finalement la CIA peu après les critiques de son patron et commence à travailler en tant que consultant de la NSA, attribué par Dell, l'un des 854 000 consultants avec une autorisation secrète au service du gouvernement fédéral. Ils sont nombreux quand même.
Ah oui, c'est assez fou. Puis l'alliance avec Dell, en fait, parce que Dell, pour ceux peut-être qui l'ignorent, c'est un fabricant d'ordinateurs américain, mais c'est devenu, je crois, un des plus grands fabricants d'ordinateurs. Et justement, il utilisait Dell parce que ses ordinateurs étaient vendus partout dans le monde pour y intégrer des backdoors, en fait, ou des portes, justement, qui permettaient facilement ou plus facilement à la NSA de faire leur travail, en fait. Puis c'était pour ça l'alliance entre Dell et le gouvernement, parce que à la base, c'est Dell, c'est juste un fabricant d'ordinateurs,
oui.
Mais on voit que ça va un peu plus loin.
Au cours des prochaines années, il bascule entre les missions confiées à la NSA et à la CIA pour Dell, notamment une affectation dans une installation de la NSA au Japon jusqu'en mars 2012. Donc, il a quand même voyagé beaucoup dans le cadre de ses fonctions. En mars 2012, justement, Snowden déménage à Hawaï pour travailler dans une installation de la NSA en tant qu'employé de Dell. Il s'installe à Waipahu, où sa petite amie Lindsay Mills vient le rejoindre. Lindsay, en fait, c'est une artiste âgée de 28 ans. En mars 2013, il recherche un nouvel emploi de sous-traitance chez Booz Allen Hamilton dans les mêmes locaux de la NSA à Hawaï. Donc, c'est une firme de consultation en cybersécurité et puis il se fait engager là. Plus tard, il mentionna qu'il l'avait fait pour obtenir un accès supplémentaire aux documents classifiés qu'il avait l'intention de divulguer. Si nous revenons vers cette chambre d'hôtel à Hong Kong, donc en 2013, Edward Snowden a 29 ans et il a aussi une copine qui, même elle, là, n'est pas au courant des informations qu'il s'apprête à dévoiler. Non. Elle est complètement, elle aussi, là, dans le mystère. Celle-ci ignore même qu'il est en Chine. Elle croit qu'il est en voyage d'affaires ailleurs aux États-Unis.
Rappelons-nous qu'il vit sur du temps emprunté et que ses employeurs croient en ce moment qu'il est malade à la maison.
Oui, c'est vrai.
Le 5 juin 2013, un premier article est publié par le Guardian sur les techniques de collecte de données des appels téléphoniques et des courriels que la NSA effectue auprès des Américains avec l'aide de l'entreprise, entre autres, de télécommunications Verizon, qui est le plus gros fournisseur aux États-Unis là, au niveau cellulaire et tout ça.
Faut dire qu'à partir de ce moment-là, Snowden va commencer à faire des révélations importantes de sa chambre d'hôtel. Donc, son opération est vraiment calculée dans le but de créer tout un impact médiatique avec les informations qu'il a collectées au fil du temps. Donc, il va leur montrer des présentations PowerPoint, il va leur montrer des pitchs, des documents techniques sur plein de programmes et sur plein de choses. Et là, il y a des articles qui vont sortir à chaque jour, dont celui-là publié par The Guardian. Et cette opération médiatique-là va vraiment rendre Glenn Greenwald et ses journalistes-là à un statut très important dans le monde, et ça va parfois même relancer leur carrière.
Ah oui, vraiment, les deux ont tous écrit des livres sur le sujet là, des grosses bibles. Le 6 juin, on se rappelle que Snowden n'a toujours pas été révélé son identité. Là.
Oui.
Le 6 juin, le Guardian et le Washington Post, parce que l'autre journaliste était pour le Washington Post, publient chacun un article à propos du programme PRISM, P-R-I-S-M, de la NSA. C'est un programme qui oblige les entreprises Internet américaines, écoutez ça, à fournir l'ensemble des communications qui sont faites par les Américains. On va y revenir plus en détail plus tard sur le détail de ce programme-là. Mais déjà là, dites-vous que c'était gros là quand ça a été annoncé là. Et mettez-vous à la place si vous êtes un Américain et vous lisez ça, c'est tout de même assez inquiétant là. Puis tu peux remettre en question ton gouvernement là, là-dessus là. Jusque où ça va là.
Certainement.
Le 8 juin, deux jours après, le Guardian publie une présentation PowerPoint qui détaille par pays la masse volumineuse d'informations qu'il recueille auprès des réseaux informatiques et téléphoniques. On y apprend que la NSA, seulement durant le mois de février 2013, écoutez ça, a collecté plus de 3 milliards, ils appellent ça des « pieces of intelligence », là dans le fond, des morceaux d'informations, seulement aux États-Unis. 3 milliards là, pour un mois, c'est fou.
Ben oui.
Snowden va aussi révéler ce jour-là que le même programme existe en Europe, notamment au Royaume-Uni, et qu'il ne s'agit pas seulement d'un programme américain. Ça aussi, on va y revenir un peu plus tard. Le 9 juin est une date fatidique pour Edward Snowden. Il accepte d'être identifié comme la source des fuites des documents de la NSA et le Guardian révèle son identité au grand public. Il devient alors un des hommes les plus recherchés de la planète. Il fait face à ce moment-là à 30 ans de prison à sécurité maximum s'il est attrapé. Sa conjointe va d'ailleurs apprendre la nouvelle alors que des agents du gouvernement débarquent chez eux pour lui apprendre qu'il n'est pas en voyage d'affaires.
Oui.
Elle est méchante surprise pour elle. Mon Dieu, que tu dois... tu sais, elle savait qu'elle travaillait pour la CIA puis la NSA et tout ça, mais je crois, tu sais, le fait qu'elle ait jamais soupçonné ça, ça a dû lui faire... je sais pas comment tu dois réagir. Tu dois être vraiment sous le choc.
Au départ, elle doit penser vraiment, OK, là, mon conjoint est dans le trouble. Mais par la suite, tu dois quand même avoir une certaine admiration pour le courage de cet homme-là de faire tout ça. Mais à ce stade-là, ça doit être très inquiétant parce que là, on le sait, Snowden a eu une reconnaissance, une certaine notoriété pour ces révélations-là. Mais à l'époque, il devait même craindre, en fait, pour sa vie.
Absolument, il avait peur pour sa vie, puis il répétait. Donc, elle aussi, elle devait avoir peur pour lui. Là.
Ben oui. Arrivé à Hong Kong là, depuis le 20 mai 2013, ça commence à faire un bon bout de temps qu'il est là. Snowden doit maintenant se cacher et se protéger des autorités. Il craint en effet pour sa vie depuis que son identité a été révélée. Il réussit à obtenir de l'aide provenant d'un réfugié politique qui est un ancien soldat de l'armée du Sri Lanka. Celui-ci le met en contact avec un avocat spécialisé en droits de l'homme basé en Chine, un certain Robert Thibault, qui est en fait un Montréalais d'origine.
Oui.
Celui-ci œuvre en Chine depuis 2012 afin d'aider des centaines de réfugiés en demande d'asile qui avaient souvent été torturés ou agressés sexuellement dans leur pays d'origine. Donc, du 10 juin au 23 juin, son avocat et son équipe ont caché Snowden dans différents villages très populeux et pauvres de Hong Kong en changeant d'endroit aux 2-3 jours. C'est fascinant, ça, de nuit même.
Ah oui.
Une vraie opération d'espionnage presque.
Oui, vraiment.
Le fugitif était déguisé avec un chapeau noir et des lunettes. Il récompensait les familles en leur versant $200 américains pour leur silence et leur hospitalité. Leurs moyens de communication étaient cryptés et ils utilisaient des téléphones protégés et communiquaient aussi là, via des clés USB là, qu'ils se donnaient.
Oui. C'est drôle, hein? ça me fait toujours rire ce mode de communication-là par la clé USB parce que c'est vrai que c'est un des moyens les plus sécures de ne pas
de main à main.
Oui, de main à main. Et je sais pas, à chaque fois que je voyais ça, j'avais toujours l'impression de reculer dans le temps, mais c'est vrai que c'est le seul moyen que tu es hors réseau quand tu fais ça pour transmettre de l'information.
C'est vrai. Entre-temps, le 11 juin, Snowden est renvoyé officiellement de son poste de consultant chez Booz Allen Hamilton.
Ce qui est le lendemain, justement, de l'annonce officielle qui était dévoilée.
Oui, de son identité.
Ouais, c'est ça.
Le 14 juin, le gouvernement américain déposa des accusations officiellement contre Snowden et demanda aux autorités de Hong Kong de le retenir en vertu d'un traité d'extradition conclu entre les deux pays en guise de prélude à une demande formelle. À ce moment-là, le visa et le passeport de Snowden sont toujours valides, mais ils craignent que les autorités se rapprochent de lui, car ils ont remarqué une surveillance policière accrue dans les villages qu'il côtoyait. Ça peut paraître paranoïaque de penser ça, mais c'est la vérité, en fait.
Oh oui, absolument.
Après 12 jours de cavale, il a été transporté dans la maison de son avocat à l'abri des regards. Edward avait très peur de se faire attaquer par un drone lorsqu'il se déplaçait. Et quelques jours auparavant, il demanda à ses avocats de contacter Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks, qui est en exil à l'ambassade de l'Équateur à Londres, pour l'aider à s'enfuir dans un pays où il sera protégé et l'aider à avoir un statut de réfugié politique. Car selon les statistiques du gouvernement, Hong Kong n'a accepté que 52 réfugiés sur des dizaines de milliers de demandes depuis 1992, soit un taux d'acceptation d'environ 0,05%. Je connaissais pas ce taux-là.
Non, moi non plus.
C'est phénoménal. Vraiment, les chances d'être accepté comme réfugié à Hong Kong sont très minces.
Sont presque inexistantes.
Surtout si t'es américain. Là.
Oui, 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 exact.
Ces chances-là sont extrêmement minces, en plus là, de la présence du traité d'extradition avec les USA. Donc, ça regarde pas très bien pour Snowden à ce moment-là. Julian Assange envoie alors Sarah Harrison, une membre du personnel britannique de WikiLeaks et qui est aussi une confidente d'Assange. Elle l'envoie à Hong Kong pour rencontrer les avocats de Snowden pour mettre en place un plan d'évasion. Elle achète alors plus d'une douzaine de billets d'avion pour différentes destinations, dont l'Islande, Cuba et l'Inde, afin de semer la confusion parmi les autorités américaines et les autorités chinoises, bien sûr, qui surveillent les aéroports. Cependant, le gouvernement d'Hong Kong a malgré tout donné le feu vert pour laisser sortir Snowden du pays.
Oui.
Pendant ce temps, Assange tente de travailler avec le gouvernement américain pour établir une relation de protection diplomatique pour Snowden, mais en vain.
Oui, parce que lui, je fais rapidement, là, mais Julian Assange aussi se cache parce qu'avec la fondation de WikiLeaks...
Ben oui, lui aussi est un peu un homme cherché.
Oui, exactement. Le WikiLeaks, pour faire ce cours, c'est un peu le Wikipédia de documents classés secrets d'à peu près tous les pays dans le monde. Là, en fait, ça donne une accès à ça et ça viole justement tout ce qui est au niveau de la sécurité nationale d'une tonne de pays. Lui aussi est recherché, mais c'était la bonne personne pour l'aider justement. Le 23 juin, Snowden quitte finalement Hong Kong pour l'Équateur avec un escale prévu en Russie. Cependant, il reste coincé à l'aéroport international de Sheremetyevo de Moscou après l'annulation de son passeport par les autorités américaines.
Donc, ils l'ont comme intercepté en chemin.
Oui, c'est ça. En fait, étant donné que Hong Kong, puis c'était ça le plan, c'est que Hong Kong, eux, l'a laissé aller. Mais dès qu'il l'a laissé aller, s'est entendu avec les États-Unis pour lui bloquer son passeport. Fait que là, il ne pouvait même pas non plus revenir à Hong Kong. Là. Fait qu'il était pris entre deux. Mais c'était une tactique américaine aussi, là, parce qu'eux, ils ont l'autorité de bloquer les passeports. C'est un passeport américain. Écoutez ça, là, ça c'est fascinant. Il passe le mois suivant, un mois là, au complet, dans les limbes du centre de transit de l'aéroport. La genre de zone là, un peu pas internationale, là, mais qui a pas de territoire ou qui appartient un peu à personne à l'aéroport. Imaginez là, passer un mois là.
Ah oui.
À vivre là, c'est inimaginable.
Juste passer quelques heures là, c'est assez déprimant.
Ben oui, c'est ça. Là, il était vraiment pris là. Durant ce temps d'attente, il a déposé des demandes d'asile dans 21 pays, notamment en France, en Allemagne, en Autriche et en Finlande. Mais aucun des pays n'ont ni accepté ses demandes respectives, ni lui ont pas permis non plus de voyager en toute sécurité. Fait qu'il était mieux de rester en Russie parce que tous ces pays-là, qui est quand même tout principalement des alliés des Américains, là, j'ai l'impression qu'ils voulaient pas non plus se le mettre à dos. Là, parce
c'était très délicat.
Exactement.
C'est un peu une patate chaude. Là.
Ah oui, vraiment. Là, même s'il était peut-être pas en désaccord avec ça, c'est tellement grave ce qu'il a fait en termes de géopolitique. Je peux comprendre les pays de pas vouloir héberger quelqu'un qui est recherché comme ça. Le 1er août, les autorités russes lui accordent l'asile temporaire le temps qu'elle examine sa demande d'asile politique permanente. Du même coup, The Guardian publie un autre article qui détaille le financement de la NSA par les renseignements britanniques pour permettre justement au Royaume-Uni de collecter les données qui seraient illégales pour la NSA de faire. C'est un peu ce qu'on vous parlait tout à l'heure. Donc, ils ont fait un partenariat. Donc, le Royaume-Uni, eux, ils ont une autre législation en Europe. Ils avaient accès à d'autres données et ils ont signé un partenariat avec la NSA pour partager ces données-là. Mm-hmm. Mais habituellement, la NSA pouvait pas coupler ces données-là. Ils avaient pas le droit de le faire quand même. Mais avec ce partenariat secret-là, ils ont eu accès à tout ça. Là. C'est encore pire, là.
Oui.
Le 14 octobre, un autre article du Washington Post révèle que la NSA a collecté plus de 250 millions de courriels et de contacts en provenance de Yahoo, Gmail et Facebook. Et là, à chaque jour, à chaque fois qu'il y a des nouveaux articles qui sortent, il y a toujours de la nouvelle information qui sort sur les données qui sont espionnées des Américains, en fait. Parce que les Américains, je pense qu'ils se soucient peu des données qui sont espionnées des étrangers, mais quand c'est les leurs, c'est là que le bas blesse. Le 16 décembre, le juge américain Richard Leon déclare que la collecte de données par la NSA sur tous les appels téléphoniques passés aux États-Unis semble constituer une violation de la protection de la Constitution contre les fouilles abusives. Cependant, le juge Leon, qui a été nommé, lui, par l'ancien président George W. Bush, met sa décision en attente pour permettre au gouvernement de faire appel. Cependant, le 27 décembre, deux semaines plus tard environ, il y a un autre juge fédéral, le juge, lui, William Pauley III, qui est juge à Manhattan. Lui, par contre, est nommé par l'ancien président Bill Clinton, qui est un démocrate, arrive à une conclusion opposée, statuant que la collecte de données de téléphone par la NSA est légale. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, c'est Obama qui est à la présidence depuis 2009 et que c'est un démocrate. Et donc, dans le fond, le juge, monsieur Leon, lui, c'était un républicain. Et puis pourtant, il a été nommé par Bush et lui, il considère que c'est illégal. Mais étant donné que la personne est au pouvoir puis que c'est des démocrates, j'ai l'impression qu'il y a eu cette influence-là aussi.
T'as l'impression que la loi a changé selon le gouvernement, le parti en place. Là, puis c'est quand même une loi assez importante ici.
Oui. Puis même si c'était les républicains qui l'avaient passé, les démocrates l'ont toujours endossé aussi là, depuis qu'ils sont au pouvoir. Là, parce qu'Obama, il est là depuis 2009. Et le programme a été implanté début 2002, là, pour vrai. Mm-hmm. Là. Donc, il y a eu quand même un 7 ans sous Bush. Là. Le 17 janvier 2014, dans un discours sur la surveillance de masse du gouvernement révélé par Snowden, le président Barack Obama ordonne au procureur général Eric Holder d'étudier les réformes possibles au programme. Parce que là, il y avait énormément de pression populaire. Là. Vous savez, tous les articles sortent depuis des mois par le Washington Post, le Guardian et tout le monde là, s'y est mis. Donc, il ressentait vraiment une grande pression. Puis je me souviens de cette époque-là, il voulait jamais se mouiller, Obama, mais là, je pense qu'il a vraiment pas eu le choix. Malgré tout, c'est ça, il ordonne d'étudier les réformes possibles, mais il défend également les employés de la NSA et tente de garantir aux Américains qu'ils n'abusent pas de leur autorité pour écouter vos appels privés et lire vos courriels.
Mais là, certains sont pas convaincus de ça. Là.
Non, exactement. C'est avec toutes les données qui sont sorties, même si le président le dit, ça reste que ça a été fait. Là. Le 27 janvier 2014, encore une fois, d'après des documents que Snowden a remis aux journalistes, il indique que les autorités britanniques ont présenté un programme pilote à leurs partenaires américains en 2012 qui leur permettait de surveiller YouTube en temps réel et de connecter les adresses des milliards de vidéos visionnées quotidiennement, ainsi que certaines informations sur ses utilisateurs pour analyse. À l'époque, il était aussi également capable d'espionner Facebook et Twitter. Incroyable, hein? Mais je sais qu'une des raisons pour YouTube, c'était justement, il pouvait identifier et cibler les terroristes par toutes les vidéos de
propagande.
Oui, de propagande et d'endoctrinement et tout ça. Là. Ouais. C'est vrai que dès que tu mets une vidéo ou dès que tu l'écoutes, t'as encore une fois, ton adresse IP est associée puis il était capable de faire des corrélations avec ça. Mais j'imagine le système... Hey, il s'en joue des vidéos à chaque jour là, sur YouTube. Là. Imagine le système qui traite toutes ces données-là. C'était fou, là, je lisais que justement on parlait d'ordinateur de Dell et tout ça tout à l'heure, mais ils ont installé aussi des gros réseaux de fibres optiques aussi pour transférer cette quantité de données là. Je serais vraiment, je n'ai jamais trouvé le chiffre exact de l'investissement, mais je serais curieux de
ça
voir.
Doit être immense.
Ah, ça doit être des milliards.
Je vais décortiquer un peu, Seb, les différents programmes de la NSA que Snowden a révélés, puis de voir un peu la différence entre chacun d'eux. Puis vous allez voir, c'est loin de vous rassurer. Là, si vous êtes du genre à penser que, justement, Big Brother est partout et qu'il nous observe, vous allez voir qu'on n'est pas trop loin de la fiction. Là. On a parlé un peu plus tôt du programme PRISM, P-R-I-S-M, PRISM, et je vais vous expliquer un peu ce que ça fait, ce fameux programme-là, un peu plus en détail. Donc, c'est un programme qui récupère les données de plusieurs compagnies de télécommunications et qui les achemine vers la NSA pour analyse. Lancé en 2007 par l'administration Bush, c'est le plus gros programme de cueillette de données mis en place par les Américains. L'objectif de ce programme est bien sûr d'intercepter toute menace terroriste. Ceci dit, toutes les communications interceptées, et là, de partout dans le monde, transigent par les États-Unis, étant donné que la plupart de ces compagnies-là sont situées sur le territoire américain, comme tu le disais plus tôt, Seb. Et c'est pour eux, c'est hyper facile d'intercepter des données qui proviennent autant d'Europe que d'Asie. Et dans les partenaires de ce programme, on compte Apple, Skype, Google, Facebook, Yahoo, AOL, YouTube et Microsoft. Donc, on couvre pas mal une grande majorité des programmes où l'information se transige.
Ah, c'est pratiquement tout l'écosystème, c'est les joueurs majeurs de tout l'écosystème numérique, là. Et c'est tous des Américains, en fait. C'est tous des entreprises à la base américaine. Malgré que Skype l'était pas, mais à cette époque-là, je sais pas si elle avait été rachetée par Microsoft. Mais malgré tout, je me mettais toujours dans la peau de ces joueurs-là. Tu sais, eux aussi doivent se questionner. Je sais pas s'il y en a dans les négociations qu'au départ étaient réticents à signer ce type d'entente-là. Parce que si ça se savait, imaginez l'impact pour les utilisateurs aussi. Là, tu perds la confiance envers ces entreprises-là aussi. Là. Donc, même pour elles, j'ai l'impression que ça n'a pas été toujours facile d'accepter ça.
Ah non, tout à fait. La plupart ont été muettes sur toutes ces révélations-là, parce qu'en même temps, t'es un peu forcé par le gouvernement, par ton gouvernement.
Ouais.
Puis je suis sûr qu'il y en a sans doute plusieurs grands dirigeants de ces compagnies-là qui sont peut-être même donateurs pour une campagne d'un de ces... de peut-être Bush à l'époque ou de Clinton.
Ou les démocrates, là,
ouais, donc c'est un terrain très, très glissant, là, le partenariat dans une situation comme ça. Sérieusement, je sais pas qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais propriétaire de ces compagnies-là. Là. Ce programme-là, on se demande depuis tantôt pourquoi c'est légal, ça? Pourquoi c'est légal d'intercepter de l'information comme ça? Il me semble que ça intervient pas contre un droit fondamental, ça. Mm-hmm. Ben, en fait, il l'est, mais c'est parce que en fonction de l'amendement FISA, F-I-S-A, de 2008, en fait, cet amendement-là donne au gouvernement le droit d'intercepter toute communication dans le but de prévoir un attentat terroriste. Donc, du moment que c'est justifié et que c'est approuvé par un juge, on peut se lancer là-dedans et puis tenter d'intercepter des données, là. Bien que les Américains stipulent que seuls les individus précis peuvent être ciblés, donc ils ne font pas d'interception en batch, là, il est tout de même possible d'intercepter les communications d'un individu sans mandat pendant une semaine, ce qui est très inquiétant. C'est comme si, dans le fond, lui, on n'a pas vraiment de mandat pour intercepter les communications de distorsion, mais on a le droit de le faire pendant une semaine, un peu comme une période d'essai, comme si c'était un logiciel en free trial, tu sais. Donc, c'est quand même assez inquiétant, là. Ce système-là, pour voir à quel point c'est gros, c'est la plus grande source de trafic pour la NSC qui store toute cette information-là dans son mystérieux complexe là, de Bluffdale en Utah. Donc, on le sait, là, le Utah Data Center, oui, qui est un peu mystérieux, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se trame là-bas, mais c'est là, en fait, que cette information-là est stockée, là. Le Canada, là, petite mise à jour, a refusé de commenter sur l'affaire, prétextant que ça pouvait causer des dommages au programme de sécurité canadien. Alors que la France, elle, s'est fortement opposée à ce genre de pratique et a même mis pression auprès là, de diplomates américains en sol français pour que ça arrête. Ils souhaitent même lancer une enquête. Donc la France a été un petit peu plus vocale, ouais, dans ce cas-ci, là, dans le cas de PRISM. Mais il y a d'autres programmes encore plus inquiétants de la NSC, là, vous allez voir. Un de ceux-là dont Snowden a parlé, là, c'est X-Keyscore. Et il y a des slides là, de sa présentation PowerPoint qui ont été publiés par The Guardian. Ce programme-là, en fait, c'est un autre programme qui permet d'intercepter des données, mais celui-ci serait beaucoup plus ouvert que PRISM. Il permettrait d'atteindre les réseaux Internet ou de téléphone de presque n'importe quel individu dans le monde au moyen d'une simple requête dans un formulaire en ligne sans mandat d'un juge.
Et ça fait peur, hein? Mon
oui,
Dieu.
Oui, apparemment qu'il te faut un certain là, niveau dans la NSC pour avoir accès à cet outil-là, mais ça semble assez simple d'utilisation, là. Donc, il serait plus flou encore là, au niveau juridique. On le décrit comme un système passif, c'est-à-dire qu'il ne porte aucune action à moins qu'on lui demande. Il connecte les données sans fin et on utilise son engin de recherche pour trouver ce que l'on veut au sein des documents collectés. Il sniffe l'information de partout, là. C'est un peu un tamanoir de l'information, oui, là. C'est un peu là, comme quelqu'un, je lisais ça dans un article, là, c'est un peu comme ramasser une botte de foin entière pour ensuite tenter d'y trouver une aiguille.
Oui, exactement.
Donc, au lieu de chercher précisément un individu précis, là. Et lorsqu'on demande à Snowden ce que l'on peut faire avec X-Keyscore, il va répondre dans une interview à Wired. Vous pouvez lire les emails de n'importe qui dans le monde, de n'importe qui pour qui vous avez une adresse courriel. N'importe quel site web, vous pouvez surveiller le trafic entrant et sortant. Tout ordinateur sur lequel une personne est branchée, vous pouvez la regarder. Tout ordinateur portable que vous suivez, vous pouvez la suivre lorsqu'il se déplace d'un endroit à l'autre dans le monde. C'est un guichet unique pour l'accès aux informations de la NSC. Vous pouvez marquer des individus. Disons que vous travaillez dans une grande société allemande et que vous voulez accéder à ce réseau. Eh bien, je peux suivre votre nom d'utilisateur sur un site web via un formulaire quelque part et je peux trouver et suivre votre vrai nom. Je peux aussi suivre des associations avec vos amis et je peux construire ce que l'on appelle une empreinte digitale, qui est une activité de réseau unique pour vous. Ce qui signifie que vous allez partout dans le monde, partout où vous essayez de cacher quelque chose via votre présence en ligne, comme votre identité. Donc, c'est vraiment un programme qui est très, très large et qui semble très nébuleux sur le plan légal.
Mais c'est fou toutes les installations. Parce que pour arriver à collecter ça, c'est pas juste un petit malware qu'on installe sur les ordinateurs, là. Faut avoir un accès direct à tout ce qui se transige.
Oui.
En fait, tous les serveurs et tout ça. Parce que pour savoir les données de qui va sur un site web, c'est tellement disparate, l'Internet, qu'il faut que tu aies accès à la genre de porte. Tu sais, le réseau de l'Internet là, pour intercepter tout ça, ça me fascine comment ils ont réussi à faire ça quand même dans un temps, sous quelques années. Là, il y a une complexité technologique aussi. Là, si on enlève le côté éthique, il y a une complexité technologique énorme pour arriver à faire ça. C'est, l'accumulation de données, ça, en tant que tel, c'est pas si compliqué. Et même de coupler des données, parce que tout tourne autour de l'adresse IP. Et les adresses IP, c'est fixe dans le sens que ça, même si nos adresses changent, on peut pas changer le répertoire d'une adresse IP qui indique que c'est à tel ou tel endroit. Ça, c'est fixe, en fait. Tout est bien répertorié. Donc, la complexité est vraiment pas là, mais c'est vraiment dans l'acquisition globale de données. Ça, j'en reviens toujours pas quand je lis ça.
Mais ils ont investi tellement, en fait. C'est un peu ça, la nouvelle guerre. Hein? C'est ça, vraiment, le nerf de la guerre, c'est l'accès à l'information. Ouais. C'est l'accès à certaines traces numériques qui va te permettent de découvrir une information, d'empêcher quelque chose, d'intercepter l'ennemi. Et donc, moi, je suis pas surpris que les Américains investissent là-dedans. Je pense qu'ils doivent être les leaders mondiaux en ce moment en termes d'acquisition d'informations des utilisateurs, là, au point où ça devient vraiment inquiétant.
Ouais, vraiment.
Et vous allez voir, le prochain programme dont je vais vous parler est encore pire. Celui-là, c'est Monster Mind. Il a très peu d'informations révélées sur ce programme-là, mais Snowden en a quand même fait des révélations à différents journaliste. Celui-là, en fait, il s'agit d'un programme intelligent et encore plus mystérieux que Prism. Celui-ci a été très peu documenté en dehors des révélations de Snowden, mais il semble être connu à l'interne, là, à la NSA. L'objectif de Monster Mind serait encore une fois d'intercepter des menaces terroristes et des attaques informatiques vers le territoire des États-Unis. Ce programme va donc analyser une très grande quantité d'informations, genre tout le trafic interne qui véhicule via les services mentionnés plus haut, là, les Yahoo, Facebook et tout ça, afin d'extraire des tendances et des patterns. La particularité de Monster Mind, pardon, il va répondre aux attaques sans demander l'intervention d'un humain.
Oui.
Donc, il va répliquer, ce qui est assez particulier. Par exemple, si un virus maléfique est envoyé aux États-Unis via un ordinateur en Russie, Monster Mind va l'intercepter et va répondre en attaquant à son tour l'ordinateur en Russie. Par contre, ce qui arrive, c'est que nous le savons bien, on écoute Distorsion et puis on sait que les pros du hacking sont généralement plus intelligents que ça. Donc, ils vont rarement utiliser leur propre ordinateur pour envoyer ce genre de menace, on le sait. Ils vont utiliser des bassins d'ordinateurs d'université ou peu importe. Ils vont plutôt agir avec des ordinateurs fantômes situés n'importe où dans le monde, bien loin des leurs. Donc, suivant cette logique, Monster Mind pourrait attaquer les ordinateurs innocents en réponse à des attaques provenant de complètement ailleurs dans le monde. Donc, c'est très dangereux. Et au niveau légal, il est clair que Monster Mind pourrait violer le 4e amendement, là, qui est le droit à la vie privée aux États-Unis, puisque pour détecter des attaques, le programme ne peut pas cibler des individus, en fait. Il doit tout analyser le trafic afin de détecter des tendances et des patterns. Donc, c'est très flou au niveau juridique. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui a convaincu Snowden d'en révéler l'existence. Ouais. C'est qu'il trouvait que ça avait pas de bon sens d'avoir un outil comme ça au sein du gouvernement américain. Par contre, il y a aucune source autre que justement des délateurs qui ont confirmé son existence. Contacté à ce propos, la NSA a nié l'existence, a refusé de commenter. Donc, c'est quelque chose qui est à quelque part entre la légende urbaine et la réalité.
Oui, le Monster Man, oui, puis il y a certains spécialistes informatiques qui disent que c'est faux,
que ça
n'existe pas, ce genre, même si c'est possible techniquement. Donc, étant donné qu'il n'y a jamais eu, comme tu disais, de documentation exacte, parce que ça... D'après moi, ils ont dû... C'est sûr que Snowden a révélé ça beaucoup après c'est la création de tout ça, mais je ne sais pas si à un certain moment, ils sont devenus plus craintifs, plus prudents, disons, sur la révélation de ces documents-là. Là. D'après moi, ils ont resserré l'information encore plus parce que ces programmes-là étaient quand même de plus en plus connus à l'interne, même s'il ne le fallait pas non plus, là, même à l'intérieur de la NSA. On revient à l'histoire de Snowden. Snowden, après avoir passé un mois à l'aéroport, là, sur son banc...
Pauvre lui, à Moscou.
Oui, c'est assez intense. Il a finalement obtenu son visa de 3 ans comme réfugié politique en Russie. Il s'installa pour de bon à Moscou avec sa copine Lindsay Mills. L'an passé, en 2017, son permis encore a été une fois renouvelé, parce qu'il était échu.
Ouais.
Et là, il a été renouvelé jusqu'en 2020. Cependant, ses avocats ont mentionné qu'il cherchait tout de même à quitter la Russie pour un autre pays un jour ou l'autre. Il mentionnait en entrevue justement « Je dors en Russie, mais grâce à la technologie, je vis partout dans le monde. »
Bien sûr, oui, parce qu'il a donné des conférences un peu partout Skype.
Même à McGill en 2016, il a donné une conférence.
Oui, à Montréal.
Malgré tout, il y a une certaine crainte en fait qu'un jour, il y a un traité d'extradition qui soit signé entre la Russie et les États-Unis avec l'arrivée de Trump. Actuellement, il pourrait être condamné à 1 000 ans de prison s'il était renvoyé aux États-Unis, entre autres pour vol de propriété du gouvernement et violation de l'espionnage act, là, en fait.
Oui. La loi anti-espionnage.
La loi anti-espionnage. Il a toujours affirmé que ses actions n'étaient pas une trahison envers son pays, mais plutôt un service qu'il voulait rendre au peuple américain en révélant les capacités de surveillance et les abus massifs des États secrets américains et britanniques, sans l'oublier. Il est maintenant âgé de 35 ans. je vous disais, il vit toujours à Moscou, mais il vit dans un endroit sécurisé et secret, là, avec des gardes et tout ça. Donc, on ne sait pas exactement où ce qu'il vit, mais il est toujours là à l'heure actuelle.
Et entre-temps, il a été nommé l'homme de l'année, je crois, là, cette année-là, où il avait fait ces révélations-là auprès de Guardian et de toutes les publications. Là.
Ah, ben oui.
Donc, ça a été ça a été des grosses années pour Edward Snowden. Je pense qu'on a fait le tour un peu de la chronologie des événements de cet épisode-là. C'est quand même encore récent, donc on sait pas trop qu'est-ce qui va arriver à Snowden au courant des prochaines années. On sait qu'au moins, il peut rester en Russie jusqu'en 2020. Ouais. Éventuellement, c'est des développements, on va vous tenir au courant. Mais quels sont les impacts réels, Seb, de cette histoire-là, de ces révélations-là, là, mis à part que Snowden risque 1000 ans de prison et tout ça, donc c'est assez difficile, mais les impacts réels dans la société et autres, comment on pourrait décrire ça?
Oui, bien en fait, ça a eu de l'impact. En 2015, le Congrès américain a finalement adopté le Freedom Act, qui limite justement la collecte en masse de données téléphoniques. Et un an plus tard, le Parlement britannique a adopté la même loi sur leur pouvoir d'investigation. Donc en fait, ça a eu un impact positif, là, parce qu'au moins les autorités s'en sont rendues compte que c'était peut-être too much. La collaboration entre les agences de renseignement et les sociétés Internet ont également été touchées, parce qu'on vous disait tout à l'heure, là, tout le monde avait signé le genre de pacte, là, si on veut, là, pour les aider. Par contre, maintenant, par exemple, l'application WhatsApp, elle a décidé de crypter toutes ces conversations de bout à bout. Donc, même si la NSA voudrait l'intercepter, il ne pourrait pas décoder le message, étant donné que les communications, tout est encrypté. Ça augmente le volume de données, mais au moins, ça sécurise la vie privée de leurs clients. Là. Puis je sais que WhatsApp appartient à Facebook maintenant, et ça avait été décidé même avant que Facebook soit propriétaire, mais quand même, je trouvais que cette action-là qu'ils ont fait, c'était bien pour les utilisateurs.
Ouais.
Surtout que WhatsApp est beaucoup utilisé dans les pays étrangers. Donc, c'est eux qui étaient quand même les plus grandes cibles de toutes ces attaques-là.
Je serais curieux de voir s'il y a pas eu un impact sur les mesures de sécurité intérieures à la NSA. Évidemment, toi et moi, on n'est pas trop au courant. On n'a pas encore de connexion à l'interne, mais on ne sait jamais. Hein, Distorsion va s'étendre peut-être jusqu'aux États-Unis. On verra bien. Peut-être qu'à ce moment-là, on aura des distordus à la NSA. Mais d'ici là, je serais curieux de voir si ils ont changé des politiques internes sur leur transfert d'informations et tout ça. Parce que c'est quand même un peu... c'est quand même inquiétant qu'un homme ait pu révéler là, des présentations PowerPoint, et il y avait certaines failles au niveau de la protection de données à l'interne même, je crois. Là.
Mais ils font confiance. Hein? À un moment donné, tu arrives à un certain point que la faille, c'est l'être humain. La faille de sécurité, c'est l'être humain. Et je sais qu'ils ont des contrats et des choses comme ça. Puis justement, si tu ne respectes pas ça, tu dois être puni et emprisonné et tout ça. Donc, ils ont dû sûrement améliorer ça à l'interne, mais malgré tout, Snowden, lui, avait le top clearance. Il avait le niveau. Son travail lui donnait accès à ça. Et lui, on le disait tantôt, je pense que c'est 850 000 consultants. Là, tous ces gens-là ont accès à ces documents-là. Donc, mais c'est certain. Moi, je suis convaincu, comme tu dis, que c'est certains qui ont dû restreindre ça encore plus pour éviter ces dommages-là, là, c'est certain.
Tout ça n'est pas sans rappeler, Seb, le cas d'un fameux Chelsea Manning qui, lui aussi, lui a été condamné, contrairement à Snowden jusqu'à présent, le 21 août 2013, à 35 ans de prison pour trahison, mais il a été libéré là, sous la présidence d'Obama le 17 mai 2017, 7 ans après son arrestation survenue là, le 20 mai 2010. Chelsea Elizabeth Manning, pour faire un petit recap, c'est une ancienne analyste militaire de l'armée des États-Unis, de nationalité américano-britannique. Manning a transmis en 2010 à WikiLeaks différents documents militaires classifiés, notamment des documents sur les morts de civils pendant la guerre d'Afghanistan, une vidéo là, d'une bavure américaine lors de la guerre d'Irak, là, qui était en fait le raid aérien du 12 juillet 2007 à Bagdad, là, qui avait fait scandale à l'époque. Là.
Oui.
Donc, je suis curieux de voir, par contre, en quelle raison elle a été libérée par Obama.
Ben, ça tombe un peu dans le même axe que Snowden. Là. C'est sûr que c'est moins... les informations qu'elle a révélées sont quand même moins larges et moins lourdes de sens ou lourdes d'impact que ce que Snowden a révélé. Donc, il y a eu un certain pardon par rapport à ça. Mais je sais pas exactement qu'est-ce qui a déclenché ça, mais je sais qu'il y a eu énormément de pression politique, même de la part de Snowden à distance. Il y avait des manifestations et tout ça, que pour eux, révéler ces informations-là n'était pas un crime de guerre en tant que tel, étant donné que c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mm-hmm. Donc, c'est pas, c'est de l'information secrète, mais en même temps, c'est de l'information qui voulait...
Et sans doute documentée ailleurs aussi.
Oui, ben oui, mais parce que ça, cette information-là, même si on la dévoile, elle met pas en jeu la sécurité des Américains, contrairement à ce que Snowden a pu mettre. Ouais. Dans le fond, ça, c'est juste des événements, disons, qu'ils auraient voulu peut-être passer sous silence.
Mm-hmm. C'est vrai.
C'est plus que les Américains ont eu l'air un peu plus fous là-dedans, puis que c'est pas toujours éthique, justement, ce qu'ils ont voulu faire, parce que tout ça est encore lié à Osama Ben Laden et tout ça, là, les raids en Irak et tout. Fait que c'est un peu sur cet axe-là. J'étais quand même surpris qu'ils l'ont libéré, mais elle a quand même fait 7 ans de prison. Là, on passe toujours du LOL, là. C'est qu'à l'époque, Chelsea Manning était un homme. Depuis quelques années, elle est autorisée par l'armée américaine. Je pense que quand t'es dans l'armée encore, faut que tu sois autorisé pour avoir un changement de sexe, là. Et maintenant, c'est ça, c'est Chelsea Elizabeth Manning. Elle est plutôt, elle est en femme maintenant, là. Quand on la voit sur Wikipédia, si vous faites des recherches, des fois, ça peut porter à confusion, là. On voit certaines photos, elle a l'air d'un homme, et d'autres fois, maintenant, elle est une femme. Là, c'est pour ça que je vous précise le tout.
Il y a eu un changement.
Oui. Il y a un autre cas d'espionnage, d'invasion de la vie privée aux États-Unis, mais qui est effectué par une technologie québécoise.
Oh, OK.
Pour ceux qui habitent peut-être dans l'ouest de l'île de Montréal ou qui ont déjà circulé dans l'ouest de l'île de Montréal, cette entreprise-là, on la voit, elle s'appelle Genetech. On voit vraiment son bureau quand on circule sur la 40. Elle développe, elle, des systèmes de surveillance de toutes sortes depuis 1997 et elle a des contrats de partout dans le monde. Il y a 1000 personnes qui travaillent à Montréal là-dessus. La compagnie Genetech, en fait, elle a développé entre autres un détecteur de plaques, en fait, qui s'ajoute de plaques d'immatriculation, qui s'ajoute au radar pédagogique qu'on voit dans les rues. Mm-hmm. Tu sais, souvent, on voit un affichage qui détecte votre vitesse et qui vous affiche vous roulez à 30, 40, etc. Mais aux États-Unis, ils ont signé une entente, en fait, que ces petits panneaux qui ont l'air un peu banals et juste informatifs, en fait, pour diminuer la vitesse, c'est plutôt des machines qui sont utilisées par le US Drug Enforcement Agency. En fait, eux, ce qu'ils font avec le dispositif de reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation de Genetech, ça traque à leur insu les trafiquants de drogue et ça récolte de l'information sur les véhicules et leurs propriétaires. Sauf que, ce faisant, ça, c'est des renseignements que tous les automobilistes, dans le fond, quand ils font ça, là, ils scannent pas juste, ils savent pas, là, quand tu conduis ta voiture, que t'es un criminel. Donc, ils scannent toutes les plaques de tout le monde et tout est logué. Tout est gardé, cette information-là. Fait qu'ils peuvent vraiment surveiller le citoyen. Là, imaginez, là, quand c'est seulement des petites bornes. Et ils utilisent même ce le gouvernement américain n'a jamais voulu répondre à ça. Puis l'entreprise, elle a dit, nous, on n'est pas responsable de ce qu'ils font avec les données. Parce que c'est vrai qu'à la base, détecter des plaques d'immatriculation, c'est ça. Eux, la technologie, c'est de détecter les plaques. Après, faire le couplage de données, ben ça, c'est pas dans leur département.
Mais j'imagine ça croisé avec tous les autres programmes dont on a parlé auparavant, Seb. On peut carrément détecter où est-ce que ces gens-là, ils sont physiquement dans le monde.
Imagine toutes les caméras de surveillance des autoroutes là, juste au Québec, là, il y a des caméras partout là. Vous pouvez même les voir en direct vous-même en allant sur le site du ministère des Transports. Ces caméras-là, imaginez s'ils installent ce dispositif-là qui est peut-être là, mais je crois pas là, mais qui installe ce dispositif-là, ils pourraient repérer qui circule où et quand. Mm-hmm. D'une certaine manière, c'est vrai que ça aussi, ça fait peur. Là, ça devient un vrai Big Brother. Là.
Vraiment.
Et je sais que la ville de Chicago utilise depuis plusieurs années leur technologie à eux. Puis eux, justement, là, dès que tu circules, si tu circules dans une rue puis que t'es détecté et que tu dois de l'argent, des contraventions, des choses comme ça, automatiquement, il y a une notification qui est faite aux agents, aux autorités, puis ils vont tout de suite aller te mettre un sabot de Denver sur ta voiture.
Ah ouais.
Donc, la ville de Chicago utilise ça depuis des années pour coincer les contrevenants qui payent pas leur contravention. Fascinant quand même. Je trouve ça le fun qu'une compagnie québécoise développe une belle technologie comme ça puis qui font travailler beaucoup de gens ici. Mais en même temps, il y a tout ce côté-là, encore une fois, là, de surveillance.
Comment on l'utilise.
Oui, exact. Après les révélations de Snowden, il a laissé un certain leg, en
bien
fait, par rapport à ça. Et un peu plus tard, il y a un média qui a été créé qui s'appelle le First Look Media, qui a été financé, entre autres, par le fondateur de eBay en 2013, qui s'appelle Pierre Omidyar, que lui va financer le nouveau média, qui a été fondé justement par Glenn Greenwald, par Laura Poitras et un certain Jeremy Scahill, avec un fonds d'investissement de 250 millions de dollars. Et le 10 février 2014, ils ont lancé ce magazine-là, en fait, le First Look Media. Et lui, son objectif, c'était de présenter justement les révélations d'Edward Snowden et ainsi poursuivre la publication des d'enquêtes diverses sur la surveillance globale par les États-Unis. Donc, on voit qu'il y a certains acteurs de la Silicon Valley, qu'on peut dire, qui étaient quand même touchés par ça, là, parce que le fondateur d'eBay, c'est de l'argent de sa poche là, qu'il a mis. Là. Il a quand même investi 250 millions de dollars. Et on s'entend qu'un magazine comme ça, First Look Media, ça look plus OSBL, un organisme à but non lucratif, qu'un magazine mercantile pour faire de l'argent.
C'est
donc, c'était vraiment, selon moi, un certain love money là, que tu t'attends pas de retour, mais plus pour la cause que tu investis.
Ben oui.
Donc, c'est un des legs que Edward Snowden a pu laisser quand même. C'est un genre de... C'est pas un WikiLeaks, là, mais
un magazine un peu activiste, en
exact,
fait, qui ouvre les yeux des gens de partout dans le monde sur ces dossiers-là. Un des autres legs qu'on peut difficilement passer sous silence, Laura Poitras, elle, qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, avec tous ces documents-là? Elle, en fait, tout le temps qu'elle était dans la fameuse chambre d'hôtel à Hong Kong, elle a filmé, donc on sait, elle était réalisatrice. Donc, elle a filmé, elle a documenté tout ça d'une magnifique manière, en fait. Et elle a fait, finalement, elle a réalisé le film Citizen 4, qui retrace les révélations d'Edward Snowden sur vraiment, et qui permet de voir un peu à quelle ampleur ça a pris. Et ce film-là, en fait, Citizen 4, a reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2015. Oui. On vous le cachera pas, c'est un incontournable pour tous les distordus. Vous devez voir ce film-là. Et c'est fascinant comment, malgré le fait qu'il est entièrement tourné dans une chambre d'hôtel ou presque, on a l'impression que c'est un vrai thriller. Là,
oui.
En fait.
Oui, c'est très bien monté.
Oui, oui, il y a du suspense, même si on est presque tout le temps dans un seul lieu. Et toujours au niveau cinématographique, évidemment, il y a Oliver Stone qui a réalisé le film là, Snowden, en collaboration avec Edward, justement, qui est aussi très bon, en fait.
Ah oui, c'est très, très bon.
Qui est une bonne fiction qui résume son parcours, là, très, très, très intéressant.
Snowden, faire une petite parenthèse par rapport à ça, là, Snowden, quand il a participé au film de Oliver Stone, il a révélé certains noms de villageois chez qui il a habité.
Ah!
Il a regretté ça. Parce qu'ils voulaient pas mettre en péril leur sécurité, ils leur ont même envoyé 1 000 $ US chacun pour s'excuser.
Okay.
Pour s'excuser de ce geste-là qu'il avait pas pensé, aux impacts de ça pour lui. Il a tout simplement pas pensé à ça, mais je trouvais ça drôle, pas drôle là, mais quand même bien de sa part de vouloir un peu s'être racheté de ça.
Mm-hmm.
Selon moi, je crois pas que les autorités chinoises ont fait quoi que ce soit avec ces villageois-là.
Ben oui.
Là, c'est pas comme si c'est pas des très grands alliés des Américains, les Chinois non plus. Là.
Je serais curieux de voir si Snowden a monétisé ces révélations.
Bonne question.
À savoir, parce que ça, c'est pas couvert ni dans le film de Laura Poitras, ni évidemment dans les articles du Guardian. Est-ce que, étant donné qu'il était dans une situation vraiment précaire, qu'il savait qu'il allait perdre son emploi puis qu'il allait avoir énormément de dépenses qui allaient suivre, est-ce qu'il s'est négocié, je sais pas moi, un salaire en vertu de ces révélations-là? Parce que, je veux dire, évidemment, le Guardian a explosé en clics en views au cours de cette semaine-là et même par la suite. Wired aussi, Washington Post aussi. Snowden, par la suite, a fait de la couverture de tous les magazines. C'était vraiment une personnalité prédominante cette année-là. Est-ce qu'il s'est assuré, avant de faire tout ce move-là, d'avoir un support financier de ces publications-là? Je me le demande vraiment.
Ben moi, je pense que oui. Mais malgré tout, il y avait quand même un bon salaire. Les consultants informatiques de la NSA gagnent très, très cher. J'avais l'impression qu'il y avait quand même un peu d'argent derrière lui. Mais je suis pas certain qu'il a tout calculé ça. Parce que lui-même, il disait toujours que son objectif, il pensait jamais à lui-même. Il pensait toujours à révéler l'information pour les Américains, mais jamais, comme je vous disais dans le début de l'épisode, là, jamais lui, il avait même planifié à sauver ou quoi que ce soit. Là, pour lui, au départ, c'était pas ça. Fait que j'ai l'impression que, naïvement, il avait peut-être pas prévu le coup.
Ouais.
Mais c'est certain qu'il a dû avoir puis même
des royautés avec les films.
Oui, ben
jamais
oui,
je croirais.
C'est sûr là, puis même à qui donnait l'information, c'est certain qu'il a dû négocier des cachets, et puis toutes les conférences qu'il a données par la suite a dû lui permettre aussi de vivre. Puis je me demande si en arrière de tout ça, il n'y a pas d'autres personnes qui ont pas des gens inconnus mais qui auraient peut-être intérêt à ce que cette information là sorte. Et qui ont pu lui au moins lui permettre de vivre. Là. On s'entend que le mois qui est resté à Moscou, ça n'a pas dû lui coûter très cher. C'est une petite blague, là, mais c'est vrai que pour la suite, surtout que là, il habite dans un endroit sécurisé et tout ça, ça coûte de l'argent là, avoir de la surveillance. Et bonne question.
Mm-hmm. Sinon, ça conclut un peu le tour de la question, Seb. C'était vraiment intéressant de se plonger là-dedans, puis d'investiguer aussi plus en profondeur certains éléments, là, notamment sa cavale, notamment un peu plus précisément les programmes en question de la NSC. C'est un sujet qui va revenir. On risque de couvrir encore des sujets en lien avec ça à Distorsion. Notamment, c'est fascinant parce qu'on discute souvent sur le groupe de discussion qu'on vous invite à rejoindre. D'ailleurs, on vous invite à aller nous dire ce que vous pensez de cet épisode-là, ce que vous pensez de tous ces programmes de surveillance-là. Mais un des sujets qui revient souvent, c'est justement tous les assistants personnels vocaux. Est-ce que, justement, maintenant qu'on fait juste avoir une discussion un soir et puis le lendemain, on a des pubs en lien avec la discussion qu'on a eue sans avoir rien googlé. Est-ce que justement toutes ces conversations-là sont croisées avec les programmes de recherche de la NSA? Ça ouvre tout un monde de paranoïa, en fait.
Ben oui, surtout que ces acteurs-là, c'est Google et Facebook principalement qui nous écouteraient. Donc, eux, il y avait déjà des partenariats à l'époque, là. On le sait pas, en fait, actuellement, ça tient toujours. Mais malgré tout, ce que tu dis, c'est vrai, là. Mm-hmm. Je sais qu'actuellement, ils n'ont jamais vraiment dénié Facebook et tout ça. Ils ont toujours un peu nié à être écoutés. D'autres spécialistes disent, tu sais, faut s'entendre, là, les assistants intelligents et tout ça, c'est pas de l'écoute active, c'est de l'écoute passive qui est souvent déclenchée par des mots-clés. Donc, dans le sens que s'il entend tel mot, là, il va y avoir des requêtes qui vont être faites. Puis actuellement, c'est vrai que l'objectif est plus commercial. Si tout ça est vrai, on observe des choses, mais les entreprises le disent pas précisément. Mais je peux comprendre, c'est pas sur tous les téléphones aussi. Puis des fois, j'ai l'impression que les gens sont un peu, ils mélangent, ils ont l'impression qu'ils sont écoutés, mais des fois, ça peut être un hasard aussi que vous voyez telle pub de quelque chose ou vous pouvez avoir recherché ça dans le passé. Il y a tout ça, mais c'est certain qu'il y a un aspect inquiétant par rapport à ça. Moi, j'adore les assistants vocaux et tout ça pour leur utilité dans le quotidien, mais c'est certain que j'ai toujours une pensée qui fait que actuellement il y a un micro qui m'écoute et qui pourrait utiliser cette information-là contre moi, là. Mais bon, j'ai rien à cacher.
Mais dites-nous ce que vous en pensez sur le groupe de discussion ou partout ailleurs. Vous savez où nous rejoindre. Oui. On est partout sur Facebook, Instagram, Distorsion Podcast, sur YouTube aussi, sur Twitter, Distorsion Pod. Et puis, généralement, on répond à tous les messages qui nous sont envoyés. Et n'hésitez pas, on a aussi plein de belles marchandises disponibles sur notre boutique au boutique.distorsionpodcast.com. On a une super collection qui est disponible avec des tucs maintenant, des t-shirts, des crewneck, des posters, des
tasses à café.
Tasses à café, oui, monsieur, justement, qui est un gros vendeur en ce moment. Donc, si vous voulez encourager le show, c'est une autre façon de le faire. Et Seb, je suis sûr que tu as un mot de la fin pour nous ce soir.
Ne vous inquiétez pas. Distorsion ne surveille pas tout ce que vous faites en ligne. Mais qui sait? Peut-être que nos stickers vous écoutent.
On ne sait jamais.